Et ce qui paraît, j'ai entendu dire aussi qu'il y en avait un qui se mariait en Louveroux un soir. Alors, ce qui paraît que on entendait crier toujours elle, qu'elle criait, mais on ne savait pas, on ne voulait pas y aller, comme c'était des mariés. Ils ont ouvert la porte, et puis la pauvre femme, elle était en train de la manger, elle mangeait tout le sein. C'était des bêtes, voilà, les loups-verous. Ils se rendaient en bêtes, voilà.
Les croyances, les superstitions, les légendes, liées aux traditions et aux coutumes du Périgord, ont-elles, aujourd'hui, une place dans la mémoire de nos aînés, dans l'environnement de nos enfants? Nous avons rencontré ces deux générations et leur avons demandé de dialoguer, d'explorer leur mémoire, de s'amuser à nous raconter quelles étaient leurs peurs, leurs monstres, de nous dire quelle signification cela pouvait encore avoir pour elles, de nous transmettre leur savoir.
En bête pendant la nuit et qui doit parcourir les sept fontaines. Et puisqu'il est très paresseux, et ben il monte sur un. Quand il rencontre un humain, il monte sur son dos et la personne qui porte le loup-verrou, il doit faire le tour des sept fontaines à sa place.
Ça peut faire peur, mais bon. Soit il peut être gentil au fond du cœur. Mais avec son apparence, on peut avoir peur, ou soit il peut être méchant et voilà.
C'est que le loup-verrou, il est moitié lièvre, hein? Loup et renard.
Vous dites des choses. Je me rappelle, il y avait des gens qui... c'était pas des amusements, c'était pour faire peur. Ah. Vous traversiez, n'est-ce pas, un bois, hein,
oui.
Et puis vous avez quelqu'un qui vous saute sur le dos.
Ah.
Et alors, il fallait le porter.
Oui.
Alors, les gens étaient toujours un petit peu sur les nerfs en disant, est-ce que ça va bien se passer,
quoi. Ah, oui, oui.
Ça, c'était les grands-parents, les arrière-grands-parents.
Qui en parlait?
Pour faire peur aux petits enfants qui se retardaient quand ils revenaient de l'école.
Ah.
Au lieu de rentrer vite pour faire leurs devoirs ou bien aider à faire quelque chose dans la ferme.
Oui.
Alors bien sûr, on leur faisait peur.
Ah.
On leur disait que y avait une espèce de bête.
Ah.
Alors c'était le loup-verrou.
Ah.
Si on y allait, et il y en a un qui dit « Non, on va se faire tuer, on va se faire tuer. » Ah ben, on va pas se faire tuer, ils vont pas nous tuer. Et puis alors, il y en a un qui a prenait une carabine. Quand j'y pense, moi j'en rigole tout seul. On s'est bien amusé, remarque. On y croyait, nous, enfants, tu comprends, qu'il existait.
Eh oui, le loup-garou.
Et puis il n'existait pas, quoi. C'était de la connerie. Tout plein.
Je suis allé Bérou, allé Bérou tout roux. Allé Bérou tout roux, ça peut paraître fou. Tous les amis le soir venus près des fontaines. Ensemble disent de moi, tiens, voilà les Bérou roux. Allé Bérou roux tout roux, ça fait pas vraiment peur. Dans le milieu des Bérou, c'est un petit peu tabou. Je suis allé Bérou toujours. Allé Bérou tout doux, ça peut paraître fou. Tous mes amis le soir venus près des fontaines. Ensemble disent de moi, tiens, voilà les Bérou doux. Allé Bérou doux, tout doux, ça fait pas vraiment peur. Dans le milieu des Bérou, c'est un petit peu tabou. Je suis allé Bérou.
Avant, quand on allait qu'on s'éveillait, on avait une lanterne, c'est un petit falot là, et puis on avait nos sabots ferrés, parce que des fois il y avait le loup qui nous suivait, et quand on le voyait, ses yeux brillaient, quand on le voyait, on posait nos sabots et on tapait, et ça allait.
Je l'ai passé, moi, souvent par l'opéra del loup, et l'opéra del loup. La peine de loup. Il y a ce mail pour ça, on appelait ça la pierre du loup.
Ah, la pierre du loup.
Pourquoi ça servait?
Ils y croyaient.
Ah, ben oui, ils y croyaient, oui. Vous avez raison, oui.
Certains chemins qui se croisaient, ou bien qui avaient, je ne sais pas, un arbre qui n'était pas comme les autres. Tout était affaire de
n'importe quel malheur.
Voilà.
Voilà la vérité.
Des endroits qui étaient maudits.
Là, c'est une histoire réelle, c'est une histoire de mon grand-père. Mon grand-père travaillait au four à chaud, près de Nontron. Et un soir, qui revenait du four à chaud, il avait un bois traversé. Et les loups se sont mis à courir après lui. Il a été obligé de les regarder, parce que les loups, si on tourne, ils courent après vous. Ils ont peur si on les regarde, d'après ce que ma grand-mère m'avait raconté. Enfin, c'était mon arrière-grand-père.
C'est le nom de Saint-Albert aujourd'hui. Alors la légende dit qu'il y avait beaucoup de chrétiens à Saint-Albert. C'était vrai. Et beaucoup de châteaux et beaucoup de maisons bourgeoises. Hein? Et donc il y en a encore pas mal qui restent, si on veut voir. Et alors en 849, il y a les Normands qui ont envahi Saint-Albert. Ils ont pillé, ils ont tué des gens, ils sont allés jusqu'à l'abbaye de Ponard, ils ont fait brûler des châteaux, enfin bon, ils ont massacré Saint-Albert. Et il y a un châtelain qui avait une fille, une seule fille, et il a voulu l'appeler Saint-Albert, parce que Alverena, ça ne lui plaisait pas trop. Et alors, après la suite de cette bataille, ils ont coupé la tête de la Sainte, d'Alverena. Alors, à la suite de ce massacre, quoi, il y a 7 sources qui ont rejailli. 7 fontaines qui ont rejailli au même moment où la tête est tombée. Bon, alors là, les fontaines, je vais vous les dire, parce que je m'en rappelle toutes. Je sais qu'il y a Font-Prigonde, ça fait une, Font-Rissou, Font-Pissarotte, Font-Grand, Font-Saint-Jean, Font-Bournat, Font-Pelugue. Oui, je crois que c'est tout. Tu n'as pas 17, là?
Et quand on a découvert l'eau, tout le village s'est mis à danser sur la place. Je me souviens de ça. Ça me restera toute ma vie. On avait fait un bal terrible sur la place. Et tout le monde dansait, femmes, hommes.
Autour de l'eau, de la fontaine.
Oui, non, la fontaine n'était pas là. L'eau était au village.
Ah oui, voilà.
Alors, c'était pas rien d'avoir de l'eau. J'étais gamine, si tu veux. Je me souviens que les hommes, les femmes, tout le monde dansait. J'étais heureux d'avoir de l'eau. Ça se contrôle un peu.
C'est bon, quand on lançait les bébés dans les fontaines là.
Ah.
Oui, comme ils étaient malades, ou ils toussaient, ou ils ne dormaient pas. On les lançait dans les fontaines, et aussitôt qu'on les sortait, ils étaient guéris.
Ah, ça c'était bien.
Oui, mais il y en a pas mal.
Qui sont morts.
Il y en a pas mal qui sont morts, parce que j'ai demandé à un prêtre, et ça se faisait beaucoup. Et c'était pas ma génération, c'était la génération d'avant. Mais moi j'ai entendu une grand-mère qui avait 70 ans, moi j'avais 50 ans, elle me racontait qu'elle avait lancé son fils dans la fontaine. Et oui. C'était une fontaine, je ne me rappelle plus, mais j'avais été la voir. Je vous jure, je suis descendue en plein été, il faisait 30 ans à machin. Cette fontaine, elle était en pente comme ça, et c'était glacé.
Il a vu une dame qui se promenait comme ça tout le tour de la fontaine. Et bien, elle a voulu lui parler, mais elle s'est envolée comme ça.
Souvent aussi à un endroit qui s'appelait la pierre du diable et qui existe toujours. La pierre du diable, elle se trouve exactement sur Vitrac. Il y a la route, il y a la pierre du diable et il y a Vitrac de ce côté. Voilà. Et alors cette pierre du diable, elle ne touche pas par terre. Elle est soulevée elle penche d'un côté et elle est calée dessous avec d'autres grosses pierres. Mais le vent peut souffler, hein. Et alors, dans cette pierre dessus, à l'usure du temps, il s'est formé des trous. Et ces trous se garnissaient d'eau quand il pleuvait. Et les petits oiseaux, ils allaient se baigner, se débarbouiller là. Eh oui. Et c'était comme ça.
Et fut un temps, on parlait beaucoup du diable. Et je ne sais pas quel était le. Ce qui obligeait les gens à parler du diable. Le diable, c'était toujours quelque chose de terrible, quelque ouais. chose de surmontable. Et alors, on entendait souvent, moi je suis un certain âge, quand j'étais tout petit, on entendait toujours les gens sur le diable aussi.
Je crois que c'était dans les gens. Et les gens, ils croyaient, hein, à ce truc. Je me souviens, moi, les vieux, à Sireuil, là-haut, quand on parlait du diable. Oh. Et moi, je m'en souviens bien, parce que j'étais gamine à l'époque où on parlait de ce diable. Et j'y croyais, moi, je disais à ma mère, je m'en vais pas, parce qu'il y a le diable, et bien, mon ami, j'y vais pas. Il fallait que j'aille, je ne sais pas où. Et je n'y suis pas allée. Je n'ai pas voulu y aller. Je n'ai pas envie que le diable m'emporte. Oui. Et oui.
Ah oui. Oui, moi, on me racontait qu'il était sous la terre. Mais vraiment dessous. À côté du monde terrestre. Je sais que le diable a un trident. Il a de grandes cornes rouges. Elles sont noires plutôt. On m'a raconté que le diable était une personne qui vivait en enfer. En fait, moi, ma théorie sur le diable, c'est un garçon, il faut bien préciser, que c'est un garçon qui en fait faisait plein de bêtises, mais vraiment pas des petites bêtises comme casser un verre, tuer des gens, pousser des gens au suicide, des trucs comme ça. Et au moment où il est mort, en fait, il est allé en enfer, mais il avait tellement commis de choses méchantes qu'il est devenu un diable, tout rouge. Au lieu de devenir un ange, tout blanc, avec des petites
ailes. J'ai entendu dire aussi qu'il y en a un qui disait, vous allez voir, je vais allumer le feu. Il a allumé quatre feux, il se trouvait dans quatre chemins. Il a allumé quatre feux, là, il a dit, c'est pour venir le diable. Dans le temps où c'est bien, le diable marchait bien, à présent il est partout le diable, vous voyez. Même des fois dans les maisons, quand on se passe.
Chose qui m'est arrivée. Ma maman était bien malade et il y a la veille de sa mort, il y a un merle qui s'est mis sur la barrière et qu'on ne voyait jamais de merle. Il s'est mis à hurler la veille de sa mort. Je lui ai dit, fiche-moi le camp, tu emmènes la mort. La veille. Je dis, c'est pas possible. Et puis, dans la nuit, on nous appelle que ma maman est morte. Mais je vous jure, là, j'y crois, ça. C'était un merle.
Oiseau de mauvaise augure.
Voilà, oui, c'était un oiseau de mauvaise augure. Alors, je dis, fiche le camp. J'ai ouvert les volets, puis j'ai dit, fiche le camp, tu apportes la mort. Il s'est envolé, et puis, à 4 heures du matin, on nous appelle que ma maman est morte.
Un fantôme, c'est plutôt, c'est invisible déjà. Moi, ce qu'on me racontait avant, on me disait que quand on est mort, on devient un fantôme.
Michel, je crois.
Un mort vivant.
Il y a un esprit où on dit où le château il est hanté, ou vous avez entendu parler de lieux ou de maisons particulières par rapport à ça?
Oh, je l'avais qu'il y avait.
Non.
Oh, j'ai
il y a le château,
certainement, un spectre dans ma chambre.
Dans la chambre, c'était où à l'œil ?
Oui. Une forme humaine un peu, hein. Ou une façon qui se bouge dans l'eau. Léger. Et ça posait sur le bois de mon lit. Et quand c'était enfoui par la fenêtre, j'ai touché l'endroit où il aurait été se poser. Et c'était chaud encore. Ils ont ri, hein. Tout ma fils, ils ont ri.
Mais c'était une paysanne, quoi. Voilà. Et je me rappelle chez les grands-parents. Et elle passait au fond de la cour. Mais je la prenais presque pour une sorcière.
Ah bon?
Comme elle avait qu'un œil.
Ah oui.
Et puis, elle ne parlait que patois. Moi, à l'école, je parlais français. Alors, je l'évitais. Franchement, je la craignais, je l'évitais. Mais c'est si loin tout ça.
C'est pas de sorcière, c'est rentre pour nous. On était couchés, et puis papa, il arrivait tard, et nous, on faisait les fous dans la chambre. On était trois enfants, deux garçons et puis moi. Et alors, papa arrivait, et il apportait un grand pain. Et il disait, taisez-vous, le ramponneau arrive. Alors nous, il nous portait ce pain qui était entier, et puis il descendait pour donner à manger, et ce ramponneau avait faim. Alors il remontait avec la moitié du pain. Mais je vous jure, là, c'était le calme plat. Hein. Il s'appelait le ramponneau, je ne sais pas. Alors quand il montait les escaliers, ça faisait du bruit. Parce que la chambre était ronde. Et ce coup de ramponneau, là, je ne l'ai même pas raconté à mon fils parce que ça nous avait rendu malades tous les deux.
La Vérane, la Vérane est dans le puits. La Vérane, vite, vite, je m'enfuis. La Vérane, dit loupou. La Vérane, dit loupou. Avec sa grande canne à cou, elle t'attrape avec sa grande canne à cou. Elle t'attrape par le cou, elle t'emmène au fond du trou. Vieille carne, elle t'emmène au fond du trou. Vieille carne, vieille roue. La Vérane.
C'est une sorcière qui est dans un puits et qui a une canne à cou. Et quand on se baisse sur le puits, et ben elle nous attrape par le cou et elle nous met au fond du puits.
Elle se glissait dans mon lit, fauchière, elle se glissait dans mon lit.
Se regrouper d'un côté et de l'autre, les uns jouaient aux cartes, mais c'était plutôt pour raconter des histoires. Et alors, on parlait du libéro, on parlait du loup, on parlait, oui, toujours pour avoir laissé la crainte, laissé la peur. Des histoires, il y en avait, vous savez, des plein pâtés, comme on dit.
Merci aux résidents de l'EHPAD Félix Lobligeois du Bugue et merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce projet et à ces échanges. Merci aux enfants des écoles du Bugue et de Vézac.